Ensemble, ici, Radio Livre, la radio des initiatives.
Vous êtes avec Radio Livre et ensemble ici, on est au petit marché, au marché tout court des producteurs des piles pour une émission comme tous les lundis, puisque le marché, c'est tous les lundis à partir de 17h et jusqu'à ce qu'on n'ait plus envie. Et aujourd'hui, on va faire une émission sur le Népal avec Angelo Lali et Émeric. Bonjour.
Bonsoir.
Ça va bien, Angelo ?
Ça va très bien.
Ça va bien. Alors, c'est la première émission qu'on fait sur le Népal avec une association que tu as montée qui s'appelle DEM, Détresse des enfants du monde.
Oui, c'est ça.
Il y a combien de temps qu'elle est née, cette association ?
Elle est née, effectivement, en 92.
92.
Et moi, en fait, j'ai rencontré cette association en 95 lors d'une expédition au Népal. Et puis j'étais touché par ce que j'ai vu, donc sans le vouloir, je finis par m'engager et depuis je m'en occupe.
Une suite complètement logique et très humaine, puisque j'imagine quand on va au Népal, ce qu'on découvre, c'est la pauvreté, la détresse des enfants,
oui,
et en même temps une joie de vivre, je crois.
Oui, quand on veut la voir, on la voit à la détresse, mais sinon les trois quarts des touristes qui vont là-bas, ils vont pour profiter du pays, de la montagne et... Ils ne voient pas ce qui se passe dans les arrière-cours, derrière les hôtels et tout ça. Quoi.
On peut garder ses lunettes de soleil, évidemment, et faire le touriste.
Exactement.
Mais toi, tu as choisi de voir, de regarder en face. Et alors, qu'est-ce que
c'est ? Et alors, je me suis retrouvé face à une quarantaine d'enfants qui étaient pris en charge par une Française qui s'appelait Jocelyne Serre, qui est morte depuis, qui a pris ça en charge donc, à partir de 92-93. Et puis elle était dans une situation assez, disons, elle était débordée par la situation. Et moi j'étais allé là-bas pour passer 6 mois en montagne et faire de la haute montagne. Et puis le fait d'avoir vu ces gamins dans des situations difficiles, du coup j'ai annulé mon séjour de montagnard. Et puis j'ai dit je vais y passer une petite semaine ou deux. Et puis j'y suis resté 5 mois. Et puis après je suis parti pendant 10 ans, 5 mois.
D'accord.
Pour m'occuper de ce projet.
Quand on dit une situation difficile, alors comment on peut imaginer ici ? C'est quoi les premières difficultés ?
Les premières choses qui choquent, c'est de voir tous ces enfants qui traînent dans les rues, qui sont pris en charge par personne. Il y a énormément d'enfants abandonnés. Et du coup, on a recueilli, en plus des enfants qui étaient là, on a augmenté le nombre d'enfants. On a recueilli à peu près une cinquantaine d'enfants qui étaient abandonnés.
Donc ils n'ont pas d'hébergement non plus.
Donc ils n'avaient pas d'hébergement. Il y avait une maison qui était louée sur Katmandou. Mais en même temps... Moi, j'aime pas trop la ville. Du coup, pour X raisons, on a déménagé dans un petit village à une quarantaine de kilomètres de Katmandou. Et là, on a loué une maison. Et une année après, j'ai acheté des terres. J'ai fait construire une maison qui a recueilli les 50 enfants.
D'accord. Donc, vraiment un gros projet, un investissement très important. L'achat d'une maison, des terres. Donc, ça veut dire derrière de l'autonomie alimentaire. En tout cas, ce qui était visé, j'imagine.
Mais plus cultiver. Que l'achat d'une maison, puisqu'en fait, la maison, on a acheté des terres. Et la maison, je l'ai dessinée, je l'ai fait construire.
Ah oui.
Et le fait j'y suis allé pendant 10 ans, 5 mois par an. Et du coup, ça a permis de suivre le projet d'une façon précise, quoi. Et puis, ça a abouti effectivement à un grand bâtiment qui a accueilli ses enfants jusqu'en 2009. Non, pas 2009. Oui, si, à peu près 2009. Et puis, ces enfants, ils ont grandi, évidemment. Après, la question se posait si on accueillait d'autres enfants ou si on transformait ce lieu en autre chose.
Ah oui.
Et dans la mesure où il vaut mieux aider une mère à élever son gosse que de lui retirer son gosse, du coup on a développé un centre social et qui procure de l'aide alimentaire, de l'aide à la scolarité, des fournitures scolaires, enfin tout ce qu'il faut pour qu'un gamin ne se retrouve pas en situation de travail. Parce qu'il faut savoir qu'au Népal, les enfants à partir de 5-6 ans
commencent à travailler.
Les enfants des familles pauvres, si ce n'est vendus, notamment les petites filles vendues dans les bordels indiens. Il y a à peu près 6 ou 7 000 petites filles qui sont vendues tous les ans dans les bordels indiens.
D'accord. Quand on dit travailler, le travail des enfants, c'est quel genre de tâche ?
Ben c'est souvent petit bonhomme ou petite bonne femme à tout faire dans les familles riches. C'est eux qui lavent le linge des touristes derrière les hôtels ou les lodges. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est ménage, etc. quoi. Et en fait, si quelqu'un veut bien les voir, ils sont là partout, quoi. C'est les premiers levés, les derniers couchés, et c'est eux qui rangent tout, etc. quoi.
D'accord. Bon, on imagine un petit peu, mais je préférais vous l'entendre dire, parce qu'on est loin, et souvent, y a un voile, il y a quelque chose. On a beaucoup de mal à voir ça en face, et en même temps, ça rendrait insupportable notre condition d'occidentaux privilégiés.
Mais c'est ça, en fait. Les gens, en général, qui font du tourisme là-bas, ils font ça en courant. C'est-à-dire qu'ils se mettent comme objectif de faire un trekking. Du coup, ils arrivent, ils passent un jour à Katmandou. Ils sont pris en charge par des agences de trek. On les embarque en bus et ils font ça au pas de course, quoi. Donc, même s'ils voient des choses, ils ne voient que le côté un peu folklorique et, ouais, et coloré. Et c'est pour ça que les gens reviennent du Népal en disant ce sont des gens merveilleux, ils sont souriants, etc. quoi, mais ils ne veulent pas voir le reste parce que sinon c'est un peu délicat, quoi.
Et en même temps, j'imagine que le tourisme a une part importante dans l'économie locale puisque ça doit amener quand même un peu des fonds.
Bien sûr, bien sûr.
Donc c'est toujours la grande difficulté, le grand écart.
Mais tout dépend du type de tourisme aussi que l'on fait dans des pays comme ça, quoi. Parce qu'il peut y avoir d'autres formes de tourisme qui seraient un peu plus respectueux des gens, respectueux de la nature, etc. quoi. Mais ouais, il faudrait toute une éducation ici, ici en Europe ou pour les Occidentaux, avant d'aller dans des pays comme ça. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place en ce moment, une autre forme de tourisme, d'emmener des personnes qui veulent ne pas avoir les mêmes conditions de vie qu'en Europe, à savoir d'accepter de dormir dans des salles de classe, dans les villages, de vivre un peu à la dure comme ça. Et puis, du coup, c'est un peu moins scandaleux l'écart qu'il peut y avoir, quoi, entre leur façon de vivre et la nôtre, quoi.
Et puis c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, j'allais dire, en matière de tourisme. Enfin, moi, quand je me déplace, c'est pour aller rencontrer les gens. C'est d'abord ça qui m'intéresse. Et s'il n'y a pas de rencontre, je reviens en général déçu.
Oui, mais si on veut rencontrer des gens, il faut prendre du temps. Et le problème, c'est que tous les gens qui vont faire des treks, ils prennent juste le temps qu'il faut pour le trek et ils repartent tout de suite après. Donc, ils n'ont pas vraiment le temps.
Quel dommage.
De rencontrer les gens.
Quel dommage. Alors ça, c'est un projet, comme j'ai compris, comme tu l'as dit, qui démarre il y a déjà un moment. Donc pour moi, c'est surprenant. C'est l'engagement de toute une vie.
Voilà, puisque ça fait 21 ans que je m'en occupe.
Quoi. Ça fait 21 ans. C'est 5 mois par an.
Là, pendant 10 ans, c'était 5 mois par an. Et depuis, comme j'ai formé des gens sur place là-bas, j'y vais une ou deux fois par an. Mais du coup, je reste 4-5 semaines, quelque chose comme ça.
Oui, puis j'allais dire, évidemment, puisque ces enfants, quand ça a commencé, aujourd'hui, sont devenus des adultes.
Exactement, ils ont tous fini leurs études, ils sont tous en situation de travail, une partie sont partis travailler à l'étranger, comme on sait ou comme on ne sait pas d'ailleurs. Il y a des centaines de milliers de Népalais qui travaillent dans les Émirats, qui travaillent au Koweït, en Israël, en Afghanistan, un peu partout, quoi. Et donc une partie de ces enfants-là qui ont fini leurs études sont partis travailler dans ces pays-là. La chance qu'ils ont, c'est dans la mesure où les trois quarts des personnes qui partent dans ces pays-là sont des personnes qui sont analphabètes. Il se trouve qu'eux, ayant profité de l'association, donc ayant pu faire des études, ils ont des emplois qui ne sont pas aussi scandaleux que les emplois des analphabètes qui sont vraiment des vrais
exploités,
esclaves.
Ce
sont des esclaves, c'est l'esclavage.
Des esclaves des temps modernes.
Exactement.
Ouais. Aïe, 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 aïe. Eh bien, j'avais un trou, tout simplement. Mais non, c'était pas un trou, c'est qu'on avait envie d'écouter un peu de musique pour laisser résonner en nous ce qu'on vient de dire. Alors, on va s'écouter un petit peu de musique avant de continuer cette conversation avec Angelo. Merci. Thank you.
ensemble, ici, Radio Live, la radio des initiatives.
Et oui, on est sur le marché des piles et vous l'avez probablement découvert au son tout à l'heure, puisque par moment, le vent s'invite un peu dans nos micros. Alors, Angelo, on parle du Népal avec l'association DEM Népal. Alors, l'association aujourd'hui, elle a des projets très concrets, j'imagine, parce qu'on a parlé de maison, on a parlé de ce terrain, construction, et il y a différentes actions, puisque les premiers enfants que vous avez accueillis ont grandi. Donc, l'association et son action ont évolué. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs activités.
Exactement. En fait, cette maison donc, s'est vidée de tous ces enfants qui ont grandi, qui actuellement, certains sont mariés, ont des enfants, etc., quoi, et sont en situation de travail. Et puis, du coup, on s'est posé la question de l'utilisation de ces locaux et comme on ne voulait plus prendre d'enfants, mais plutôt aider des familles à élever leurs gosses, notamment des femmes seules avec des enfants. Donc, on a développé un centre médico-social. Et à travers ce centre médico-social, à l'heure d'aujourd'hui, on aide 164 familles. Ça se passe sous cette forme, l'aide alimentaire, les personnes viennent, peuvent prendre un seau de riz, des produits d'hygiène, tout ce qu'il faut à peu près pour survivre. Et par rapport à la scolarité, donc on paye les uniformes scolaires, on paye les frais de scolarité, parce que même les écoles publiques sont payantes, même si c'est des toutes petites sommes. Tout ce qui est cartable, etc. quoi. Donc ça se passe deux fois par mois. Donc les gamins viennent. Donc il y a 164 gamins qui débarquent. C'est un peu la panique à bord, mais ça se passe bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce que je trouve de plus efficace, puisque du coup, avec la même, parce que avoir un internat avec des enfants, ça coûte une certaine somme d'argent, et donc avec la même somme d'argent, on peut aider beaucoup plus de personnes. Donc ça, c'est tout ce qui est centre social. Et au centre social, c'est une ex-jeune femme de la maison qui était elle-même accueillie pendant des années donc sur le projet, qui a l'initiative du centre social. C'est elle qui a été très touchée par des jeunes femmes de son âge et qui, elle, avait fait des études d'aide-soignante, et c'est avec elle qu'on a monté le projet. Après, il y a donc dans les locaux, nous avons créé un jardin d'enfants, puisque c'était vraiment une utilité locale par rapport aux paysannes qui allaient travailler et qui embarquaient leurs petits dans les champs. Donc c'est quelque chose qui est complètement gratuit. Pour l'instant, on va essayer de les faire participer à une toute faible mesure, quoi. Et ils viennent accompagner leurs gamins le matin vers 9h, viennent les rechercher le soir, l'après-midi vers 3h30. Et donc là, c'est pareil, ce sont des anciennes pensionnaires de la maison qui sont en charge de ce programme-là. Donc ça veut dire qu'on a créé des emplois pour elles, quoi. Et puis, quand ces gamins s'en vont, il y a tous les gamins des alentours qui viennent faire leurs devoirs. Donc, il y a un accompagnement aux devoirs avec 5 personnes, 5 instituteurs qui les accompagnent. Donc, il y a entre 50 et une centaine de gamins qui débarquent tous les soirs. Il y en a partout, par terre, sur les bancs, enfin, où on peut, quoi. En tout cas, c'est très joyeux. Et il y a même des gamins qui ne veulent pas aller à l'école, mais qui viennent faire leurs devoirs. Voilà.
Il y a une soif d'apprendre.
Une soif d'apprendre, oui. Puis c'est surtout d'apprendre ensemble, donc c'est joyeux, quoi. Et puis le vendredi après-midi, puisque là-bas, le jour, notre dimanche à nous, c'est le samedi. Et le vendredi après-midi, donc tous ces gamins-là débarquent, et c'est la ludothèque. Donc on distribue des jouets, des ballons, etc. Et puis tout ce monde-là joue. Faut dire aussi que les enfants n'ont pas de jouets chez eux, contrairement à nos pays, quoi. Ouais. Et du coup, pour eux, une petite voiture en plastique, une vieille poupée, parce que moi, je ramène plein de jouets que mes amis me donnent, parce qu'évidemment, ici, nous sommes inondés de jouets, quoi. Et du coup, ça se transforme en un immense espace de jeu, quoi. Et puis, c'est vraiment très, très, très joyeux. On met de la musique, on finit tous par danser, etc., quoi. Donc, ça, c'est pour tout ce qui se trouve autour de cette maison. Après, il y a une autre partie du programme qui est l'aide à des anciens du centre social, donc notamment des jeunes femmes qui veulent continuer leurs études, et on leur donne une petite bourse d'études en échange de laquelle on leur demande d'intervenir dans les écoles publiques locales quelques heures par jour. Et en même temps, nous, ça nous sert d'antenne pour repérer des enfants qui sont en danger. Et du coup, qu'elles orientent vers le centre social. Donc c'est quelque chose qui se tient, quoi, qui tourne en boucle.
Il y a une chaîne, voilà, une chaîne logique, une synergie avec tout ça. Ça fait très plaisir à entendre. C'est un chouette projet. Moi, ça me touche énormément.
Je peux dire que moi, je suis éducateur, c'est un domaine que je connais bien. Donc j'ai pu mettre ça en place, en fait, de mettre en place quelque chose qui était avec laquelle moi j'étais complètement en accord, quoi, contrairement à ce qui m'est amené, ce que j'ai été amené à faire comme travail dans certaines institutions où j'étais éthiquement complètement pas d'accord avec ce que je devais faire, quoi. Mais heureusement pour moi, ça fait quelques mois que je suis à la retraite, donc tant mieux, quoi.
Super, ça tout va bien. Comment ça se passe au niveau des aides? Comment ça fonctionne économiquement? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a du troc, il y a des aides qui vont vers certaines personnes qui veulent progresser, des formations, comme tu viens de le dire, là. Mais globalement, voilà, les subsides de l'association, comment elles les trouvent?
En fait, depuis des années, j'ai créé un réseau de personnes avec des relais. Il y a un relais en Bretagne, il y a un relais sur Paris, il y a un relais du côté de Marseille. Donc ce sont des personnes qui connaissent le projet, qui sont venues me trouver là-bas, qui ont été touchées par ce qu'on faisait et du coup qui m'aident à ramasser un peu... l'équivalent de... En fait, sur une année, on dépense à peu près 25 000 euros. Donc, il faut qu'on trouve 25 000 euros à nous tous, quoi.
Donc, 25 000 euros, c'est un budget énorme.
Mais là-bas, en fait, c'est comme si on avait dans les 200 000 euros en main. Donc,
voilà.
C'est... Parce qu'il faut dire aussi qu'un salaire basique au Népal, à l'heure actuelle, il est à peu près de 60-70 euros par mois. Un ouvrier agricole, il touche 5-6 euros par jour quand il a du travail. Les femmes en touchent la moitié, parce que les femmes, évidemment, sont payées moins cher, alors qu'elles travaillent beaucoup plus, quoi. Et du coup, avec cet argent-là, on arrive à faire pas mal de choses, quoi. On arrive à faire tout ça, quoi. On arrive à apporter une aide alimentaire, une aide à la scolarité à ces 164 gamins. Il y a le jardin d'enfants. Au jardin d'enfants, ce qu'il y a aussi, ce sont des gamins qui, comme ils viennent de milieux très défavorisés, le midi, on leur donne un complément alimentaire, à savoir des choses qu'ils n'ont pas chez eux, à savoir des protéines, des fruits, des choses comme ça, quoi.
D'accord.
Donc ça, c'est... Voilà. Puis sinon, on a aussi un autre volet du projet qui se trouve... Donc, parce que tout ce dont je parle se trouve à Panaouti, qui est une petite bourgade de 6-7 000 habitants qui est à une quarantaine de kilomètres à l'est de Katmandou. Et c'est une petite bourgade d'une ethnie qui s'appelle Newar. Donc ils sont un peu les descendants de tous ceux qui ont construit tous les beaux temples qu'on connaît du Népal, etc., quoi. Donc c'est hindouiste avec une ouverture sur le bouddhisme. Voilà, c'est très proche du bouddhisme en même temps parce qu'ils intègrent un peu tout ça, quoi. Il faut dire aussi qu'au Népal, il n'y a jamais eu de guerre de religion, contrairement à nous, quoi. Ce sont des gens très tolérants qui utilisent les mêmes lieux de culte, que ce soit des bouddhistes ou des hindouistes. Et ça, moi, j'étais grand respect pour ça, quoi.
Ah oui, ça fait plaisir à entendre. Je ne le savais pas. Merci de me l'apprendre. Alors, la question que je me posais, c'est que le peu de choses que je sais, c'est qu'il y a quand même plusieurs castes.
Oui, il y a, en fait, officiellement...
Comment on cohabite,
officiellement, les castes sont abolies depuis un certain nombre d'années. Mais la tradition veut que ces castes sont ancrées dans la société, dans la façon de fonctionner. Donc... c'est très difficile de les gommer. Il y a très très peu de mariages intercastes. Quand il y a un mariage intercaste, c'est une galère pas possible pour les jeunes mariés. En général, ils partent de leur famille et ils s'installent à Katmandou, parce qu'à Katmandou, bon, c'est une ville qui est quand même très... qui n'est plus le Népal, quoi. Ça a été complètement colonisé par les touristes, donc voilà. Les us et coutumes sont complètement autres, quoi. Mais sinon, les castes, elles sont flagrantes, quoi. Les basses castes s'occupent des basses besognes. En fait, pour simplifier, traditionnellement, les basses castes étaient toutes les personnes qui faisaient un travail manuel. Et ce qui fait que quelqu'un qui a un peu d'argent, qui est d'une autre caste, jamais il va toucher une pioche, une pelle. Et moi, j'ai fait un peu scandale quand j'ai débarqué là-bas, parce que j'ai demandé à mes collègues népalais qui n'étaient pas de basse caste de mettre la main à la pâte et de commencer à faire les travaux avec moi, quoi. Donc c'était quelque chose qui était aussi une expérience nouvelle pour eux. Mais c'est quelque chose qui bouge petit à petit. Ça bouge avec les nouvelles générations. Mais la génération des parents... c'est verrouillé à mort, quoi. C'est vraiment verrouillé.
Ben oui. Les traditions veulent toujours se maintenir. Alors, quand tu repars au Népal, tu emmènes des jouets, j'imagine, et puis d'autres choses.
Oui, autant que faire se peut, parce qu'on est limité par le poids dans les avions et tout ça. Mais je profite de mes amis ou de mes connaissances qui vont là-bas pour leur dire de vider leurs armoires de tout ce dont ils ne veulent pas et de l'apporter là-bas, et ce qui fait qu'on le distribue. Par contre, je leur déconseille d'acheter des choses ici, parce qu'en fait, que ce soit des choses qui traînent chez nous, ça va, mais si on achète des objets ici, ou des crayons, ou des cahiers, des choses comme ça et tout, ce qui est dommage, c'est que du coup, les personnes locales ne profitent pas de ça. C'est-à-dire que nous, on préfère se fournir chez...
En local.
En local, quoi. Du coup, on achète tout en local, quoi. Donc, je dis aux personnes de jamais apporter, d'acheter des choses les apporter
exprès,
là-bas,
d'accord.
Puisqu'on trouve de tout, quoi. Puisqu'en même temps, les mêmes choses qu'on trouve ici qui viennent de Chine, là-bas, ils sont plus proches de la Chine. Donc, évidemment, ils ont exactement les mêmes objets, quoi.
Effectivement. Et quand tu reviens du Népal, tu ramènes aussi des choses, j'imagine ?
Oui, quand je reviens du Népal, parce que je suis en connexion avec des petits artisans locaux, donc j'achète pas mal d'artisanat local, ce qui me permet de faire une petite boutique éphémère aux piles tous les ans avant Noël, qui dure une petite semaine, quoi. Et puis j'envoie aussi de l'artisanat que je ramène à mes relais, en Bretagne notamment, et sur Paris, quoi. Donc on ramasse un peu d'argent comme ça, quoi.
Est-ce qu'on arrive... Alors, il y a une bourrasque qui vient nous déranger, mais tout va bien. Le parasol est bien ancré. Est-ce qu'on arrive à partager cette sensibilité que tu as par rapport au Népal en ramenant des choses ? Parce que j'allais dire, le tourisme, il commence chez nous avec l'artisanat qu'on peut ramener. Mais est-ce que quand on achète quelque chose, est-ce que les gens sont, les clients, j'allais dire, sont, les Occidentaux sont sensibles en même temps qu'ils achètent quelque chose qui vient du Népal?
Ouais, ils sont sensibles à la beauté de ce qui leur plaît, par exemple. Et puis, des fois, ils posent des questions, quoi. Mais il se trouve aussi que j'essaye d'acheter tout ce que j'achète. Comme je connais les producteurs, c'est du commerce équitable, quoi. C'est parce que ce qu'on trouve sur les marchés, c'est souvent fait dans des ateliers où on exploite les gens aussi là-bas, quoi. Donc, moi, je fais attention d'acheter à des coopératives de femmes, par exemple. Ce qui fait que je suis sûr que c'est propre, quoi.
Ouais, très, très important. Mais je posais la question, je ne savais pas comment te la poser, mais parce que c'est vrai que quand on voit de l'artisanat exotique, on pourrait dire, c'est toujours plaisant, c'est toujours sympathique, etc. Mais de là à franchir le pas et à entrer en conversation avec la personne qui est en charge de revendre ses produits, ce n'est pas toujours évident. Et par contre, c'est systématiquement extrêmement enrichissant, parce que c'est des gens qui sont allés sur place, qui ramènent des choses, et ce qu'ils amènent, c'est un morceau de vie.
Oui, la différence aussi qu'il y a avec les personnes qui vendent sur les marchés, par exemple, sont des commerçants. Donc quand ils vont dans des pays comme ça, ils visent des lieux où ils peuvent trouver les produits les moins chers possibles, et très peu font attention à la façon dont c'est produit, quoi. À moins d'afficher commerce équitable, dans ce cas-là, il y a une petite garantie qui n'est pas certaine, quoi. L'idéal, c'est vraiment de connaître les producteurs, parce que du coup, là, on voit qui fait quoi, quoi, et pourquoi,
voilà.
Quoi.
On en revient à la première, à l'introduction de cette émission. Quand on voyage, il faut connaître les gens, il faut prendre le temps de les rencontrer. Ben là, c'est un peu la même démarche. Si on veut soutenir l'association DEM aujourd'hui, j'imagine qu'il y a plein de possibilités pour la soutenir.
Oui, bien sûr, il y a plein de possibilités. D'abord, il y a un site qui est dem-népal.fr. En fait, il y a toutes les données sur le site. Il y a aussi une page Facebook, pareil, DEM Népal. Et effectivement, on peut aider sous différentes formes. En fait, la meilleure forme pour aider, c'est de parrainer l'association, à savoir de... Parce qu'en fait, on fonctionne beaucoup avec des personnes qui ont mis en place des virements automatiques. Ce qui fait qu'on est sûr d'avoir une certaine base financière pour fonctionner. Et puis la différence, on essaye de le trouver à travers des ventes d'artisanat en sollicitant les gens pour qu'ils fassent des dons ponctuels à l'association quand on est dans le besoin, quoi. Mais sinon, moi, je suis tout à fait trouvable puisque j'habite les piles.
Donc j'imagine que presque tous les lundis, sinon tous les lundis, tu es sur le marché des piles.
Exactement. Donc si quelqu'un veut vraiment aider, il peut me retrouver, il n'y a pas de souci.
On peut se retrouver, j'imagine. On peut très bien trouver aussi des informations sur Radio Livre, sur Ensemble Ici et sur ton association auprès de... Bah là, c'est Radio Buvette. On est juste à côté de la buvette. Il y a des bonnes crêpes. Et puis, de toute façon, le marché des piles, c'est un marché local, de producteurs locaux. Donc, on est vraiment dans le même état d'esprit. Voilà, on peut goûter les produits du terroir, les produits qui sont faits ici, très localement. Et ça, c'est une première chose qui est très, très agréable. Qu'est-ce qu'on dit encore sur ton association, Angelo?
Il y a aussi un petit volet qui se trouve aussi à Pokhara, qui est un lac à 800 mètres d'altitude, qui est au pied des Annapurna. Donc, c'est un lieu magnifique, un lieu de villégiature. Il se trouve que je connais une personne là-bas, un Népalais, qui est des castes des intouchables, que son grand-père était un militant pour les droits des intouchables, que son père a continué un peu à militer là-dessus. Du coup, il m'a demandé de développer une petite bibliothèque de prêt ou un lieu où les enfants des intouchables du coin, quoi, de ce quartier-là, puissent venir faire leurs devoirs, etc., quoi. Donc, on a commencé à aider cette personne. Au lieu de construire un bâtiment, j'ai loué des locaux. On a fait un appel aux notables, hein, parce qu'il existe des notables intouchables, puisqu'il y a les gens qui travaillent. Évidemment, au bout d'un moment, ils peuvent faire un peu d'argent, quoi.
Les intouchables, c'est une caste qui est à quel endroit dans l'échelle des castes?
C'est la plus basse des castes.
C'est la plus basse.
La plus basse des castes.
Très important.
Ouais. Et en fait, par exemple, les tailleurs et les cordonniers sont des castes d'intouchables. Mais il se trouve que les tailleurs et les cordonniers, ils ont fait de l'argent aussi. Donc, ces gens-là ont donné des livres aussi pour cette petite bibliothèque, etc. Mais il se trouve que suite au tremblement de terre, la petite maison qu'on louait s'est toute fissurée, elle est devenue dangereuse. Donc il a fallu construire un abri précaire en parpaing et en tôle, comme tout le monde, enfin tous ceux qui avaient un peu d'argent, quoi. Et du coup, maintenant ça se passe sous ce lieu-là. Et quand j'y étais, au mois de juin, j'ai débloqué un peu d'argent pour pouvoir mettre au moins des moustiquaires aux ouvertures, parce que étant à 800 mètres et étant la mousson, il y avait énormément de moustiques et les gamins ne pouvaient pas étudier. Donc voilà, ça c'est fait et ça va être fait en tout cas.
Et du coup, moi, la question qui va derrière, c'est le que je me pose, s'il y a une bibliothèque, j'allais dire pour les intouchables, en tout cas par les intouchables, est-ce que d'autres castes s'y intéressent?
En fait, oui, parce qu'en fait, on l'avait fait spécifiquement pour ce petit quartier-là, mais il se trouve que c'est devenu une espèce de maison des jeunes, puisque les jeunes du coin les plus âgés ont commencé à traîner par là. Du coup, c'est devenu un coin de rencontre, et du coup, ce qui est intéressant, c'est aussi pour ça que je suis attaché à ce petit projet, c'est que en fait, du coup, les gamins se mélangent. Et il n'y a plus de. C'est pour ça que je parlais des générations. La nouvelle génération, ils font fi de tout ça, quoi. Ils sont copains. Et puis voilà, quoi.
C'est intéressant, c'est un nouveau projet qui dépasse le projet initial,
oui,
presque. Ça prend son autonomie et ça évolue.
Oui, c'est ça. Ça prend en fait différentes formes et c'est en fonction des rencontres et en fonction des besoins que je constate. Et du coup, on développe petit à petit comme ça, quoi.
Il y a de l'écoute, du coup, j'ai l'impression. Est-ce que c'est compliqué de monter un projet au Népal, d'aller réaliser des choses concrètes, ou est-ce que ça peut se faire assez facilement?
C'est compliqué de tenir dans le temps. C'est très facile d'aller là-bas parce qu'il y a des personnes qui vont là-bas, qui sont touchées par trois gamins qu'ils rencontrent, et puis ils laissent de l'argent à des personnes pour élever ces gosses, et puis en fait, l'argent, il va jamais jusqu'au bout, quoi. Et il se trouve que pour tenir longtemps, parce que pendant longtemps, j'ai travaillé aussi avec l'ambassade de France à Katmandou, justement pour prévenir les gens de que le grand cœur suffisait pas, quoi. Il n'y a pas que ça, quoi. Il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on fait, avec qui on fait ça et pourquoi on le fait, quoi. Parce que sinon, on fait des gros ploufs dans l'eau et puis on s'en va et puis tout se casse la gueule, quoi. Alors que là, en y passant du temps, en prenant beaucoup de temps, c'est un peu ce que tu disais au départ, quoi. Quand on voyage, il faut prendre le temps parce que sinon, on glisse comme on est comme dans une bulle et devant un téléviseur. Sauf que voilà. Et du coup, là, le fait de prendre du temps, de rester sur place, de discuter avec les personnes, de leur laisser aussi des initiatives, quoi, puisque c'est eux qui sont les plus à même de comprendre ce qui se passe profondément, quoi. Maintenant, avec le temps, je comprends pas mal, quoi. Mais in fine, je leur demande toujours leur accord en disant, est-ce que c'est bien d'aller dans cette direction-là ou cette direction-là? Est-ce qu'il n'y a pas, je ne fais pas un impair par rapport à la culture, etc. Moi, je suis très respectueux. D'une part, on n'a jamais fait de prosélytisme sur place. Les gamins continuent à faire le rituel bouddhiste, hindouiste, enfin ce qui leur appartient, quoi. Et moi, je m'y prête volontiers. Effectivement, pour moi, c'est un côté exotique, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de s'adonner à des pratiques comme ça, parce que du coup, ça met dans le mouvement du coin. C'est-à-dire que les choses sont très très lentes.
Le mouvement
du coin qu'on habite comme ici, ouais. Quoi. Quelqu'un qui vient ici,
on s'imprègne de la culture.
En courant, bah voilà, il voit les piles et puis il achète 3 légumes, il s'en va, quoi. Mais il a pas pris la saveur des piles. Mais c'est un peu pareil là-bas, quoi. C'est pareil. Quand on va dans des pays comme ça, si on veut vraiment s'imprégner de la culture et de ce que sont ces personnes-là et des différences culturelles qu'il y a, il faut passer du temps et juste s'ouvrir. Et pas être dans le jugement, mais juste être là dans l'écoute et puis observer et puis
merci. Et respecter. Grand merci Angelo pour ce voyage qu'on vient de faire. Je pense que sans se donner rendez-vous, on se retrouvera pour poursuivre cette aventure, parce que je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Et en tout cas, grand merci de nous avoir embarqués dans ton aventure, qui fait très très plaisir à entendre. Vous allez retrouver la radio, c'est du direct qu'on fait, voilà. On retrouve Ensemble Ici, Radio Olive sur Ensemble Ici, sur le web, et puis tous les lundis au Marché des Piles, en fin d'après-midi. Voilà, on se dit à bientôt.
Et bien à bientôt et merci.
Merci beaucoup Angelo.
Bravo. Padma samba va padma samba va padma samba va padma padma samba va 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 padma sam
ensemble, ici. Radio Livre, la radio des initiatives.